Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 21 janvier 2026. On se retrouve avec un Bitcoin qui repasse sous les 90 000 dollars malheureusement, Ethereum juste sous les 3 000, quasi moins 7% sur les dernières 24 heures pour la seconde crypto-monnaie du marché. On a des contre-performances comme ça qui vont de moins 3 à moins 10, c'est le cas notamment de Hyperliquid qui repasse donc à la 18e place juste sous Avalanche, sous les 22 dollars et les 6,25 milliards de capitalisation. On continue jusqu'au top 40 où on a ICP Internet Computer qui recule de moins 7. On a également moins 7 pour le Worldcoin et on clôture le top 60 avec moins 8 pour Story qui se désormais hisse autour de 1,15 milliard de capitalisation. Donc on voit que ça n'est toujours pas terminé du côté des altcoins. Et la question qui va perdurer sur fond de contexte géopolitique macro-mondial très tendu, très compliqué actuellement, c'est est-ce qu'on va avoir un bis repetita au printemps de ce qu'on a eu l'an dernier autour des tarifs de Donald Trump lorsqu'il y avait eu un peu voilà, cette descente aux enfers en avril et derrière le rebond que ça avait permis d'initier multimarché, sachant que comme on va le voir dans un instant, il y a également l'or qui est en train de partir tout droit devant mon capitaine autour des 5000 dollars l'once. Pour rappel, notre partenaire donc sponsorisé NordVPN, vous avez le lien en commentaire et description, l'offre avec moins 75% de réduction, 4 mois offert, 30 jours satisfait ou remboursé, ça vous permet d'avoir une sécurisation homogène de toute votre activité online quelque part et d'avoir un bon gestionnaire de mot de passe, un NordLocker pour les fichiers dans le cloud et une sécurisation en temps réel de votre navigation. Donc n'hésitez pas, ça nous soutient grandement, vous avez le lien en commentaire et description. On passe aux informations avec l'or qui atteint pour la première fois de son histoire 4000 euros l'once et même on doit être à 4100 ce matin. Bien que le dollar est en train de nous faire des carabistouilles de nouveau, il est parti à la cave. Donc voilà, l'explosion continue des métaux précieux. Je crois qu'on approche les 4900 dollars l'once contre le dollar. Donc c'est assez dingue de se dire que l'objectif aussi qu'on s'était fixé quelques semaines en arrière, ces fameux 5000 dollars l'once vont être peut-être atteints dans ce premier mois de la nouvelle année 2026. Donc vraiment, c'est une année, je pense, qui va pas nous laisser indifférent, hein, exactement comme on l'a eu en 2025 et on risque d'avoir pas mal de surprises à ce rythme là d'ailleurs on a Netflix qui a eu donc ses résultats avec des résultats légèrement en deçà des attentes et ce qui immédiatement a été sanctionné hors séance puisque le titre a reculé de moins 5 à moins 6% à la clôture. Ceci étant dit, on va voir ça au niveau de l'analyse technique puisqu'on le suit depuis plusieurs semaines, ça va nous donner un point d'entrée qui risque d'être assez magistral pour le coup. Vous avez Visual Capitaliste qui nous partageait donc les retours du S&P 500 sur 152 années. Ça n'est pas rien puisqu'on remonte dans les années 1900. Et donc, on voit que la majorité du temps, eh bien, on se situe quelque part entre une performance qui va de 0 à 20%, en tout cas pour les deux plus gros pics proéminents de cette infographie. On a également une belle, malgré tout, courbe qui se trouve entre le 0 et le moins 10%. On a ensuite à la quatrième place le 20 à 30% et ensuite ça se départage avec moins 20 à moins 10% donc qui arrive assez régulièrement. Et on l'a vu, puisque là c'est les années qui clôturent en fait sur des performances négatives, qu'au sein même d'une année courante, on peut avoir un moins 10, moins 20% et terminer l'année comme l'an dernier très largement dans le positif. Donc c'est quelque chose à prendre en considération. On a également quelques faits qui se sont passés, notamment 2002, qui font état donc d'un recul entre moins 20 à moins 30%. 2008, 1937, 1907, les plus grosses crises avec du moins 30 à moins 40. On a même 1931, moins 40, moins 50. Et ensuite, de l'autre côté du spectre, les performances les plus positives se sont trouvées en 2019, 97, 95, 75, 58, 45, 28, 1908 et 1879. Avec plus 30 à plus 40 et les performances les plus extraordinaires, 40 à 50% de perf, c'était 54, 35 et 33. Donc en gros, voilà, si on fait une médiane, une cote mal taillée, c'est vrai que la plupart du temps, eh bien, on voit qu'on va être entre moins 10 et plus 20% approximativement, ce qui fait que historiquement, quand on recoupe toutes ces datas, eh bien, c'est là où on voit que le fameux S&P 500, sur une centaine d'années, effectivement, fait du 8% par an. Peut-être ça va un petit peu plus vite même même ces 20 dernières années où on va plutôt être sur du 10%. Mais voilà, globalement, si vous êtes investi sur les marchés et que ben, sur les 20, 30, 40 années qui viennent de la vie active d'un adulte qui aurait aujourd'hui 20, 30 ans, eh bien, on va sur le même motif quelque part. On pourrait observer exactement ben, les mêmes périodicités, à la fois de crash et à la fois de périodes extraordinaires comme on les a connues depuis 2020. Et peut-être que, justement, on a grillé pas mal de cartouches par rapport à ces années 2020-2025. Et c'est de ça dont il va falloir se méfier jusqu'à 2030 pour voir si on digère pas un peu tous ces excès. On a la série, c'est un hors-sujet complet, mais je ne peux que vous la conseiller, puisque souvent, pas mal de gens s'arrêtent aux premiers épisodes. Voilà, la saison 1 est peut-être un peu décousue, ou je sais pas, ça plaît pas parfois à certaines personnes. Il s'agit de Breaking Bad, bien entendu, qui fête ses 18 ans. Oui, vous ne rêvez pas. C'est là qu'on voit que le temps passe très vite. D'ailleurs, récemment, il y avait une trend du côté des réseaux sociaux qui disait oui, le Covid, ça n'a pas débuté il y a 3 ou 4 ans, c'était il y a 7 ans, et en effet, puisque ça avait débuté à l'automne 2019, quelque chose dans ces eaux-là, et je crois même que début 2019, il y avait eu les premières alertes, en tout cas autour du printemps, sur la partie asiatique, et ensuite on avait eu la contagion mondiale entre l'automne et fin d'année 2019, et la suite, vous la connaissez, donc en effet, c'est là où on voit que le temps passe très 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 vite. On avait Bob Lucas, donc, qui nous prenait l'exemple de Hyperliquid face à Tether, et la trend, donc, extrêmement baissière et qui va perdurer très certainement, et notamment si Bitcoin part lui-même à la cave par la suite, ce qui pour l'instant est toujours le scénario que je privilégie quelque part. Alors c'est pas de gaieté de cœur que je me dis que le Bitcoin va baisser, bien entendu, mais d'un point de vue statistique et de ce qui est en cours au niveau des trends multimarchés, on marche tellement sur des œufs que à tout moment le S&P 500 qui recule de 5 ou 10%, on va se faire pulvériser du côté de Bitcoin, et ça, voilà, on l'aura vu venir, d'autant plus qu'en ce moment, l'actif de référence qui est le plus cherché au monde, banque centrale de superpuissance incluse, c'est l'or. Donc, d'un côté, on a l'or qui fait un aspirateur comme jamais. De l'autre, on a les taux qui remontent également, et on a pas mal de tensions géopolitiques par rapport à tout ça, ce sujet du Groenland. Et donc, pour l'instant, on a une Europe et le Danemark qui se préparaient éventuellement à contrer une invasion par rapport aux États-Unis. Alors, je ne pense pas que ça en arrivera là, mais aujourd'hui, c'est vrai que Donald Trump est entré actif, si l'on peut dire, du côté des réseaux sociaux, et qui te sort tout et n'importe quoi. Voilà, on se demande à quel sens se vouer vis-à-vis de tout ça. Et donc, on a le VIX qui est en train de charger pas mal, autour de 20, au-dessus de 20. On va attaquer l'analyse technique ensuite sur ça. Et c'est vrai que ça laisse se poser pas mal de questions pour ce printemps 2026. Avec des taux longs qui bondissent non seulement du côté des États-Unis, le 30 ans approche les 5 points, c'est exactement là aussi ce qu'on visait pour l'entièreté de 2026, comme quoi souvent les prédictions qu'on se fait pour une année, si elles doivent se réaliser, elles se réalisent plutôt tôt en général. Et on a le Japon également qui pour le 30 ans est à 4 points et pour le 10 ans est à 2,35, donc là aussi c'est des taux qu'on n'a pas vu depuis les années 2000, 2005, 2010, donc ça va très très vite. Comme le mettait en avant Axel Kibar, et bien finalement on est en train de dessiner sur Bitcoin un peu un bear flag. Donc en gros, pour ceux qui ne font pas d'analyse technique, on a une impulsion large importante primaire, une consolidation dans un petit drapeau montant, et derrière on fait en général le même type d'amplitude. Donc inutile de vous dire que si on mesure cette amplitude là qui nous a fait approximativement de 125 à 80 000 dollars, vous la reportez en sortie du drapeau ici à 90 gros au merdeau, et vous avez votre amplitude qui nous conduit une fois de plus autour de 50-60 000 dollars. Je ne suis pas là pour vous rappeler que ça peut arriver ou que ça doit arriver, mais juste vous y préparer mentalement si on revoit un Bitcoin effectivement peu ou prou autour de 50 000. Les menaces de Donald Trump, donc, qui continuent de pleuvoir sur la France, avec notamment la volonté d'imposer 200% de taxes sur les vins et champagne. L'Europe possède 40% du total des obligations du Trésor américain détenu à l'étranger, soit 3 635 milliards, et le reste de l'Europe, entre guillemets, n'est pas en reste, en incluant le Royaume-Uni, même si aujourd'hui, voilà, c'est un pays qui est sorti de l'Europe en tant que tel, 888 milliards, la Belgique 481 milliards, Luxembourg 426, Irlande 340, France 376. Le S&P 500 fait plus de 10% par an depuis 70 ans, phrase aussi incomplète que dangereuse selon Tino Bourse. Et il est vrai que si l'on rentre sur des décennies perdues, comme on les appelle, qui rentrent en compte de temps en temps sur la bourse, on peut avoir de mauvaises surprises en effet. Alors ça serait véritablement faire un lump sum vraiment au pire moment et ne pas avoir du tout de chance, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Donc il faut toujours trouver le juste milieu entre, par exemple, vous venez d'avoir du capital, un héritage ou quoi que ce soit, vous allez vouloir le déployer le plus rapidement possible sur les marchés, puisque du côté des réseaux sociaux, sans arrêt, on va vous haranguer quelque part pour vous dire, si tu n'es pas investi, tu perds de l'argent, l'inflation, blablabla, blablabla. Et d'un autre côté, je pense qu'il faut faire un juste milieu entre un premier lump sum, peut-être de 30% de la somme, quand vous avez comme ça une grosse somme qui tombe et que vous souhaitez l'investir, puisque ce n'est pas toujours le cas, et ensuite de faire un DCA au travers du temps, notamment pour avoir comme ça le bénéfice d'années qui vous permettent de recharger très très bas. Mais ce n'est pas évident, c'est vrai que c'est une question où beaucoup vont vous mettre la statistique pure et dure et vous dire, eh bien, dans 100% des cas, le lump sum bat le market timing, donc c'est-à-dire de faire du DCA, si on a l'argent en tout cas. Et d'un autre côté, si vous tombez sur une décennie morte et que vous venez de faire votre lump sum, c'est-à-dire investir en une seule fois toute la somme au mauvais endroit, au mauvais moment, et que derrière, pendant 5 ans, le marché ne fait rien, je pense que ça doit être une traversée du désert extrêmement rude. Également, toujours Tino qui nous mettait en avant que en France, la détention d'ETF progresse fortement entre 2024 et 2025, et la dynamique est très marquée socialement et générationnellement, avec une hausse spectaculaire chez les 18-34 ans, et c'est tout à fait normal, puisque c'est en grande partie eux qui sont consommateurs de contenu sur Internet, de podcasts, de vidéos comme Finari et bien d'autres, donc on ne peut que leur tirer notre chapeau, et surtout que ça permet comme ça à cette génération de nouveaux investisseurs et de jeunes investisseurs de préparer leur avenir avec le sujet des retraites qui sera prochainement un des gros blocs de la chaîne. On vous tease un petit peu, mais voilà, on vous prépare des formats longs sur une mini-série de 4, 5, 6 épisodes, 20, 30 minutes, et je pense que c'est quelque chose qui va vous plaire premièrement et qui permettra à la chaîne de passer à un nouveau palier, en tout cas je l'espère, et on compte sur vous, mais on n'y est pas encore tout à fait. On essaiera de vous en parler au moment où ça arrive, et on compte véritablement sur vous là pour le coup, pour les likes, les commentaires et les partages autour de vous quand ces vidéos arriveront, puisque ça demande énormément de moyens tant humains que financiers. Donc ça sera ce qui soit permettra à la chaîne, je fais une toute petite digression, de passer le cap finalement des vrais youtubeurs quelque part et de faire des centaines de milliers de vues sur ces formats longs intemporels, ou bien tout simplement, eh bien, la chaîne ça ne marchera pas, et peut-être que voilà, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, on passera à autre chose. Donc aujourd'hui, voilà, on tente des nouvelles choses, comme n'importe quelle chaîne qui est là depuis 5, 6, 7, 8 ans, et on espère bien entendu que ça vous plaira. En attendant, on a le staking d'ETH qui représente désormais 30% du total des Ethers disponibles, donc ça se passe très bien pour le staking ETH, et on a pas mal de monde en queue pour justement mettre le staking. Donc je sais pas trop quoi en penser là aussi, ça fait pas mal de temps d'un point de vue technique au niveau de l'analyse d'Ether que c'est un peu le yo-yo autour des 3000, mais c'est vrai que comme il n'a pas beaucoup performé sur le cycle précédent, je garde toujours dans un coin de ma tête que s'il y a un FOMO un jour, un peu sur les ETF du côté institutionnel, sur Bitcoin et Ether, peut-être en simultané, plutôt que de les avoir en mode disparité, on pourrait avoir une très très belle performance du côté de Ethereum, qui maintenant qu'en plus il propose des Ether stakés, même au travers de certains ETF, pas tous, ça permet de vendre d'un point de vue de la plaquette de ce que eux vendent à leurs clients de leur côté le fait que c'est un actif à rendement, un peu comme si on vous versait un dividende tous les ans. Et ça, du côté, on va dire, des professionnels, ça change tout, et surtout des fonds de gestion, puisqu'ils vont se dire, ok, vous avez un gros bêta au niveau de la volatilité, certes, pour le marché crypto, on va pas dire le contraire, c'est pour ça que je suppose que Ethereum, ils alloueront grand maximum 0,5 à 1% d'un portefeuille généralisé, là où Bitcoin, ça pourrait aller jusqu'à 3, 4, 5%, et de notre côté, ça peut permettre justement, si performance il y a, de vraiment booster très positivement un portefeuille. Donc voilà, comme d'habitude, on essaie d'avoir une approche terre-à-terre, patrimoniale, et qui englobe la volatilité, et notamment ce fameux ratio de Sharpe et le fameux ratio de Sortino également. Je me plonge petit à petit dans les méandres des mathématiques et des ratios, mais voilà, on essaie de faire au mieux en fonction des informations fragmentaires qu'on a, et c'est pas toujours des plus faciles. On a la Réserve fédérale qui pourrait déployer 55 milliards donc entre le 10 et 12 février par rapport à des réinvestissements et des réserves de bons qu'ils rachèteront eux-mêmes. Autant vous dire que 55 milliards dans l'univers des bons au trésor américains, c'est comme si on pissait dans un violon, donc c'est une non-information, mais ça peut être intéressant au niveau de la dynamique qui pourrait être perçue pour les marchés, de se dire, ok, ils arrêtent d'enlever de la liquidité, le fameux quantitative tightening, et aujourd'hui on est sur quelque chose de flat, et peut-être plus tard ils se remettront à être accommodants, c'est le fameux quantitative easing, mais on en est encore très très loin. Et on terminera donc avec deux petites infos. Loris Dalio qui nous met en avant que depuis 1945, en moyenne, il faut 2 ans et 10 mois au S&P 500 pour effacer totalement ses pertes et retrouver son niveau initial. Donc en effet, c'est pas forcément des plus faciles, et comme on l'a vu, il y a parfois des moments où pendant très longtemps, notamment autour des années 2000, il fallait 6,2 années pour retrouver ses petits, et c'est là où ça pique très très fort, notamment pour quelqu'un qui ferait son lump sum au mauvais moment, au top de la bulle internet par exemple, ou au futur top de la bulle IA, bien que beaucoup analystes aujourd'hui s'accordent à dire qu'on n'est pas forcément au top de cette bulle-là. Et enfin, le NYSE qui va autoriser très certainement en février le trading 24/7 des actions et des ETF aux États-Unis, ce qui là aussi permettra finalement d'avoir des marchés ouverts comme le marché crypto 7/24, et pour le meilleur et pour le pire, mais en tout cas ça permettra peut-être aussi de délester un peu les frustrations qu'il y avait sur le marché crypto et qui des fois prenaient beaucoup plus tarif que le reste. On a le VIX donc à plus 7% et au-dessus de la zone des 18-19, ici les 20, donc il va falloir voir si on rallie la zone suivante autour de 28 voire de 36, et si on commence à avoir une véritable prise de peur quelque part du côté des marchés, tandis que le gold ce matin est à 4 879 $ l'once, donc ça ne laisse aucun répit, on a des volumes qui continuent de rentrer, on a tous ces métaux précieux qui sont recherchés. Voilà, je sais toujours pas quoi en penser, honnêtement. C'est un des plus beaux bull runs auxquels on est assisté ces dernières années quand on met de côté Bitcoin ou les cryptos auxquels on est habitué à ce genre de chart, bien que sur ces dernières années, justement 2024-2025, on n'ait pas eu des trends aussi soutenus du côté des cryptos. Et donc, le truc intéressant, ça sera de voir le jour où on aura des retracements majeurs du côté des métaux précieux. Est-ce que ça va venir sur les actions? Est-ce que ça va venir sur les bons au trésor? Est-ce que ça va venir sur les cryptos, dont Bitcoin, où l'argent qui rentre sur l'or restera sur l'or avec de l'or physique essentiellement. Voilà, ça serait intéressant peut-être aujourd'hui, un jour, d'avoir une personne qui a un peu plus de background au niveau des métaux précieux et qui pourrait venir nous parler notamment de la disparité entre l'or physique qui semble aujourd'hui à ce point cherché par les banques centrales et de l'or papier, puisque vous vous doutez bien qu'en termes de market cap, il y a énormément de spéculation, d'ETF, de produits dérivés au niveau de l'or qui renforce ce market cap global, mais qui fait de la spéculation autre justement que l'or physique. Et on peut comparer ça un petit peu quand on fait l'analogie à Bitcoin, avec les 21 millions de bitcoins physiques entre guillemets qui sont aujourd'hui pour la plupart les bitcoins proposés au travers des ETF, et d'un autre côté les options, les futurs, etc., qui sont des contrats papier dérivatifs et qui donnent du market cap supplémentaire certes, mais ne sont pas de véritables bitcoin, toujours entre guillemets. Je ne vais pas m'arrêter plus longtemps sur les métaux, puisque voilà, c'est dit, on a des métaux extrêmement... j'ai plus les mots et les superlatifs pour qualifier ce qui est en train de se passer sur ce bullrun des métaux précieux. Le DXY 98,58, ce qui fait que on a un USD euro autour de 85. Donc pour l'instant, voilà, c'est pas des mouvements non plus complètement déraisonnables. Ça recule un tout petit peu au niveau des taux des États-Unis. Le S&P a quand même clôturé hier à moins 2% et le Nasdaq à moins 2,12. On est au contact de la moyenne mobile 20. On va voir donc si c'est le grand plongeon, puisque si grand plongeon il y a, bah derrière c'est plutôt la moyenne mobile 50 et ça ferait déjà une descente qui serait loin d'être anecdotique, puisqu'on reviendrait autour de 6300 points pour le S&P et on est à 6800 aujourd'hui. On a également pour le crypto total, c'est les 3000 milliards, la moyenne mobile 100 qui est à nouveau touchée. Donc en effet, si on est en petite configuration, comme on l'a vu tout à l'heure, dans un bear flag, dans une potentielle continuation de ce premier mât qu'il y a eu ici, vous reportez tout simplement le mât et vous allez atterrir approximativement, voilà, si on fait au doigt mouillé, quelque part entre les 2500 et si vraiment tout le monde se met à avoir peur, les fameux 2000 milliards où on viendrait chercher cette moyenne mobile à 200 semaines qui correspond du côté du Bitcoin, vous vous en doutez bien, à un Bitcoin autour de, voilà, entre 70 000 et 58 000. Donc la bonne nouvelle, c'est que cette moyenne mobile 200, vu qu'on a eu un bon bull run, pas du côté des cryptos, mais du côté de Bitcoin, c'est qu'aujourd'hui, elle est à 58 000. Donc ça nous fait un des bear markets potentiels les moins horribles qu'on aurait à traverser, si ce n'est que, effectivement, pour le marché crypto, les altcoins, eux, sont en bear market depuis décembre 2024. Allez, on va dire janvier-février 2025, donc ça fait un an. Donc c'est clair que si Bitcoin nous met le deuxième smash sur la tête, voilà, ça va devenir très très compliqué pour ceux qui ont conservé malheureusement bon nombre d'altcoins en portefeuille et qui se disent « bon, ben, on verra plus tard si ça remonte », ce qui est rarement la bonne méthodologie à avoir, notamment pour ceux qui ont beaucoup trop de lignes du côté des altcoins, mais c'est pas forcément le sujet du jour. La Bitcoin dominance est autour de 60% et Ether, lui, est voilà, autour de 3000. On a buté à nouveau sur les 3380-3400, ça ne passe pas. Donc pareil, peut-être un retour dans un premier temps à 2450. On a une zone ensuite, comme vous le savez, autour de 2150-2002. Et pour la traîne long terme, on pourrait venir chercher quelque part autour de 1006 si vraiment ça se gâte et que Bitcoin nous sort les fameux 55-60 000. Voilà, c'est à peu près dans ces eaux-là qu'on peut jouer. Et en gros, si on matérialise ça d'un point de vue psychologique, de qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui sur Ether ou sur Bitcoin par rapport à si on rentre là immédiatement, c'est pour ça que le DCA s'y prête très bien dans ces périodes-là pour le marché crypto, eh bien on peut perdre entre moins 40 et moins 50% au bas mot, puisque là, voilà, je ne m'avance pas, c'est des targets techniques extrêmement basiques, mais comme d'habitude, il faut prendre en considération qu'à partir du moment où on commence à avoir la véritable peur qui s'empare du marché crypto, c'est des bonnes grosse bougie rouge impulsive et souvent ça va un peu plus loin que ce qu'on se l'était représenté psychologiquement ou techniquement. Pas grand chose à tirer du côté des treasury companies, des Coinbase et consorts qui ont tous reculé de moins 10 pour SBET à moins 2 pour Galaxy 8, donc avec Coinbase au milieu à moins 5,57. On passe sous cette zone des 236. Comme je vous disais la dernière fois, j'étais pas en train de m'exciter immédiatement sur Coinbase. Peut-être que je commencerai entre 185 et 160 ici, on a un support également à 145 et ensuite la zone long terme se trouverait autour de 120. 120, clairement, je paierai très certainement volontiers puisque ça ferait grosso merdo de nouveau un moins 50% par rapport à là où nous sommes actuellement et par rapport au top de marché, si on revient à 120 pour Coinbase, ça nous fera quand même un moins 73%. Donc clairement, là, je sais que je rentrerai pas en une seule fois, mais si on me donne les 120, je commence agressivement mon DCA pour l'action de Coinbase sans aucun problème. Au niveau des actions américaines, on a Take-Two qui continue de faire une petite consolidation, mais haute. Donc en gros, on est toujours dans cette attente de si GTA 6 va bel et bien sortir autour de la fin d'année désormais 2026 et des revenus que ça pourrait générer. Donc voilà, on était rentré tôt sur ce titre. Est-ce qu'aujourd'hui, on a envie de spéculer aussi haut? Peut-être si un jour, il revient autour de 215 $, donc qui est la zone de point haut de 2021, why not? Mais pour l'instant, on ne sait pas trop où on va. Et surtout, comme je vous disais tout à l'heure, c'est Netflix, donc qui cherche du pétrole. On va avoir une zone suivante 30 qui est à 82$ et surtout le Fibo 0,5 à 75 avec juste en dessous le support 70$, moyenne mobile 200, 62, 63 qui est aligné avec le 0,618. Donc aujourd'hui, toute cette zone de jeu est notre zone de DCA potentiel pour Netflix, si ce n'est que au vu comme le couteau tombe, on va laisser bien entendu le titre se planter quelque part, nous offrir un semblant de retournement et de double creux ou de simple creux, peu importe, un apaisement du cours avant de re-rentrer et après surtout une performance qui entre mai 2022 et ici le point haut de juin 2025 s'était apprécié de 710% pour Netflix, plus d'un fois 8, c'est complètement dingue. Au rang des actions FR, comme on l'avait vu la dernière fois, on a FDJ qui peut-être est en train, dans un petit rectangle ici, d'essayer voilà, de se remettre. Ceci étant dit, comme j'en discutais sur le Discord avec certains membres ces derniers jours, voilà, c'est des actions très difficiles des fois, et notamment de faire du stock picking tout court, puisqu'on prend un risque supplémentaire d'essayer de choisir nos propres chevaux de bataille. Et c'est vrai que FDJ, pendant un temps, voilà, c'était du range, c'était assez illisible et c'était plutôt propre à trader quelque part. Et d'un seul coup, il y a eu ce rachat, cette ouverture à l'international. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, etc. Ça n'intéressera pas forcément bon nombre d'entre vous, mais il y a eu un changement et ça a été traduit par cette peur du marché qui a cassé ce support ici autour des 30€, 28-30, et derrière on est parti à la cave jusqu'à 22€. Donc aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup de déjà payer FDJ? C'est assez compliqué, mais c'est vrai que autour de cette zone, entre 22 et 24€, pour ne serait-ce que rallier la zone des 30€, ça peut faire une performance qui est sympa, et d'autant plus si derrière il y avait une véritable relance. Voilà, la symétrie du risque peut potentiellement se présenter sur ces niveaux sans savoir si c'est le dernier arrêt, bien entendu, pour le terminus pour FDJ en termes de points bas. Du côté des alt, j'avais fait un petit tour, mais rien de super ragoûtant pour l'instant. On avait peut-être Yota qui essaie de se raccrocher aux branches entre les 0,08 et les 0,10. Donc bon, voilà. Les altcoins, peu importe où l'on regarde, mis à part si effectivement on regarde du côté du BNB, comme je vous disais la dernière fois, et notamment BNB BTC qui est complètement flat depuis 2-3 mois. C'est peut-être aussi le fait qu'en interne, ils soutiennent vachement le truc. On a même Solana qui est en train de batailler très dur, 128-129$ avec un énorme support. Alors certes, la dernière fois, la moyenne mobile 200 l'avait sauvée à 95$. Aujourd'hui, elle est à 104. Mais voilà, si continuation de ce bear market il y a, et notamment de Bitcoin qui nous fait sa dernière jambe baissière, malheureusement, attendez-vous à minima à voir les alts suivre à peu près la même contre-performance de Bitcoin, c'est-à-dire moins 30, moins 40. Moins 50, exactement ce qu'on a pu observer également au niveau de l'analyse technique pour Ethereum, la seconde crypto-monnaie du marché, si toutefois elle revenait peu ou prou autour de cette zone des 1600 milliards, avec les 1400 qui peut-être ne seront pas retouchés d'il y a deux cycles. C'est le point bas même qu'on a eu en 2025, c'est assez fou quand on y pense. Mais voilà, globalement, ça nous donne des objectifs qui sont assez réalistes pour un bear market et qui pour les altcoins, eh bien, ça fait pas plaisir à grand monde, mais la plupart du temps, malheureusement, ça se passe ainsi. Et on terminera avec le Japon, donc peut-être aussi ces fameux taux longs au Japon qui sont en train d'exploser dans le même temps que ceux des États-Unis, et le Nikkei qui aujourd'hui recule légèrement. Donc il va falloir être observateur de ce qui va se passer d'un point de vue macro, d'un point de vue de comment se comportent les flux également. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un gold comme ça qui s'approche doucement mais sûrement des 5000$ l'once, on se demande ce que à offrir finalement cette année 2026 en termes de rendement multimarché. Et quand on parle de rendement pur et dur, eh bien, il va falloir trouver beaucoup mieux sur le marché action ou d'autres marchés quelque part que ces fameux 5% qu'ont à nous offrir le taux à 30 ans du côté des États-Unis, qui aujourd'hui sont un peu considérés comme la référence mondiale. Donc on ne sait pas du tout dans quel sens ça va partir, mais c'est vrai que le fait d'avoir des taux comme ça qui sont aussi hauts, alors même que la Fed est censée petit à petit rassurer les marchés, détendre un petit peu l'économie, peut-être permettre aux ménages américains également de faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire consommer à crédit. Voilà, aujourd'hui, il y a une disparité entre le ressenti, je pense, et la confiance des consommateurs, et peut-être la peur qu'ils ont également de l'avenir, et ce qui est en train de se passer sur les marchés. Et comme j'aime à le dire, il y a forcément quelqu'un à la fin éléments dans ce dénominateur commun qui finira par perdre. Mais pour l'instant, on n'en a pas toute la réponse. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve ce week-end. N'hésitez pas, petit pouce, petit commentaire. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.